J'accueille dans notre studio Géraud Lavandier, responsable de l'unité territoriale de Digne à l'ONF. Bonjour, bienvenue dans le studio de Fréquence Mistral.
Bonjour et merci de m'accueillir, Tiffany.
Avec plaisir. Alors, vous travaillez à l'ONF, Office National des Forêts. C'est un nom qu'on voit pas mal passer, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Est-ce que vous voulez revenir sur les missions de l'ONF? Alors, les missions un peu générales, et puis on va peut-être venir faire un zoom sur notre région et sur en particulier une exploitation forestière actuellement au lieu dit Le Saumon, dans la forêt domaniale du Besse. Mais voilà, commençons déjà par quelques pistes sur l'Office national des forêts.
Alors, l'Office national des forêts, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Et l'objectif principal de cet établissement, c'est de gérer les forêts publiques, c'est-à-dire les forêts de l'État et les forêts des collectivités, dans une visée de gestion durable et multifonctionnelle. Alors, gestion durable, ça veut dire que les services que la forêt nous rend aujourd'hui, on voudrait qu'elle nous les rende aussi dans 50 ans, dans 100 ans, enfin voilà, que ce soit toujours des services que pourront retrouver nos enfants, les enfants de nos enfants. Et multifonctionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule fonction à cette forêt, il y en a un ensemble. Généralement, on parle de quatre fonctions principales, hein. Une fonction de production de bois, donc qui permet d'alimenter la filière bois et d'avoir in fine tous les usages qui sont les nôtres avec le bois au quotidien, du papier toilette jusqu'à la structure de la maison qu'on habite. Ensuite, il y a une mission d'accueil du public, donc les forêts domaniales et communales, généralement, elles sont ouvertes au public, on y crée des sentiers de randonnée, des sentiers de VTT, on peut avoir des sites d'escalade, etc. Et tout ça, c'est organisé en lien avec les collectivités territoriales en général. Et ensuite, on a une fonction environnementale, donc qui se décline sous plusieurs aspects, mais celui qu'on retient en général le plus, c'est l'accueil de la biodiversité, donc toutes les petites bêtes qui vivent dans la forêt et dont on essaie de préserver le cadre de vie. Et enfin, la dernière fonction, c'est la fonction de protection contre les risques naturels, ce qui est particulièrement important dans un département de montagne comme le nôtre, où du coup la forêt elle retient les sols, elle évite qu'il y ait des trop de pierres qui arrivent sur les routes, qu'il y ait des crues trop fortes dans les rivières, et donc elle nous rend ces services-là aussi.
Oui, parce qu'on peut peut-être préciser, donc une forêt elle peut appartenir à une commune, à l'État, et elle peut aussi appartenir à des propriétaires. Comment se fait un petit peu la répartition
Alors, donc, c'est une question d'historique et de propriété, effectivement. Dans le département, on a à peu près la moitié des forêts qui sont des forêts publiques, propriété des communes ou de l'État. Autour de Digne, c'est beaucoup des forêts propriétés de l'État, du fait de l'histoire de la restauration des terrains de montagne, où l'État, à l'époque, a acheté ou exproprié les propriétaires pour pouvoir reboiser la montagne de manière à limiter les risques naturels, notamment les crues torrentielles qui posaient de gros dégâts en aval le long des rivières. Et donc du coup, au niveau national, c'est plutôt une proportion de 30% de forêts publiques contre 70% de forêts privées, donc qui appartiennent à des gens comme vous et moi qui ont dans leur patrimoine un morceau de forêt. Ce qui n'empêche pas que la forêt, même si elle est propriété privée de quelqu'un, elle rend des services à tout le monde. Donc il y a un certain nombre d'obligations, y compris pour les propriétaires privés, sur la manière de gérer ces forêts. Donc la restauration des terrains de montagne, c'est une politique qui a débuté à la fin des années 1800, avec le constat qu'il y avait beaucoup de dégâts, notamment des exhaussements de lits de rivière. C'est-à-dire en fait, il y avait la terre des montagnes qui partait avec les orages, parce que dans les montagnes, il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans la montagne et qui vivaient à l'époque sur la montagne. En 1850, il y avait à peu près autant d'habitants dans le département du 04 qu'aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on se nourrit sur la France, voire le monde entier. À l'époque, ils se nourrissaient quasiment exclusivement sur place. Du coup, il n'y avait quasiment pas de forêt parce qu'ils avaient besoin de l'espace pour cultiver et mettre des moutons ou des chèvres. Et du coup, en l'absence de forêt et d'un pâturage très fort, quand l'eau tombait, elle tombait directement sur un sol nu. Et du coup, elle arrache petit à petit la terre à la montagne. On estime qu'on a perdu jusqu'à un mètre de terre dans les montagnes à cette époque-là. Et donc cette terre, elle part avec les rivières, elle se jette dans les rivières et elle se dépose quand il y a un peu moins de courant en aval. Et donc c'est comme ça que le fond des rivières monte. Et derrière, quand le fond des rivières est de plus en plus haut, quand il y a beaucoup d'eau qui arrive d'un coup, à la fonte des neiges par exemple, la rivière déborde. Et comme en aval, on a des terres arables, donc des champs, et aussi les villages, les villes, et ben, ça crée beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, etc. Et donc la restauration de terrains de montagne, c'était comment on règle ça. Donc l'État a pris des grosses responsabilités à l'époque en essayant de reboiser la montagne, notamment toutes les zones les plus sensibles. Ici, ça correspond aux zones de Marne Noire, ces zones que vous pouvez retrouver sur Drex ou Arshile, là où on a des terrains qui sont très partiellement boisés encore aujourd'hui et qui sont, ça fait des paysages de collines toutes noires. Ces paysages-là, ils perdent presque 1 cm de terre par an. L'objectif de remettre de la forêt dans le paysage, c'était d'éviter ces phénomènes de départ du sol.
Oui, c'est intéressant de faire un point historique parce que j'imagine que dans la gestion des forêts, il faut des fois se projeter sur le long terme ou pour comprendre, revenir pas mal en arrière. Il y a un rapport à la temporalité qui est certainement un peu particulier. Et ces fonctions que vous avez citées, les fonctions de la forêt, ça correspond donc au régime forestier ou au code forestier. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors le régime forestier, c'est l'ensemble des règles qui sont édictées dans le code forestier, donc c'est très lié tout ça. Et donc effectivement, le code forestier, pour nous, c'est vraiment le texte de loi qui est à la base de tout ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et qui définit ces obligations de gestion durable et cette obligation de gestion multifonctionnelle et qui nous donne déjà un certain nombre de pistes pour savoir ce que c'est exactement et ce que nous devons faire dans les forêts.
Et vous, au sein de l'ONF, donc, quelle est votre fonction, quelles sont vos missions ?
Alors du coup, moi je suis responsable de l'unité territoriale de Digne. Concrètement, ça veut dire que je gère avec une équipe de 7 personnes les forêts publiques dans la vallée de la Bléone. Donc en gros, depuis les mets jusqu'au col du Labouré. Donc on gère à peu près 30 000 hectares de forêts sur cette vallée. Essentiellement des forêts issues de la restauration des terrains de montagne. Donc beaucoup de pin noir qui a été planté à cette époque-là, qui a 120, 130 ans maintenant. Mais aussi des reboisements plus spontanés. Donc des haies qui étaient souvent les rares espaces encore boisés à l'époque de la RTM, des chênaies, des pinèdes à pins sylvestres qui ont reconquis en fait les espaces pastoraux abandonnés. Et du coup, avec cette équipe de 7 personnes, au quotidien, on essaie de mettre en œuvre cette gestion durable et multifonctionnelle sur ces 30 000 hectares.
C'est compliqué un peu de combiner ces différentes fonctions, celles que vous avez citées, la production de bois, l'accueil du public, de la biodiversité. Est-ce que c'est facile d'ordonner tout ça ou est-ce qu'il peut y avoir un peu conflit d'intérêts entre les différentes fonctions ?
Alors, il est certain que pour maximiser une des fonctions, on diminue forcément la prestation sur une autre. Si on prend un exemple très simple, si je veux maximiser la production de bois ou le revenu financier lié au bois, je vais vouloir couper tous les arbres suivant un rythme assez soutenu, ce qui ne sera pas forcément positif pour la biodiversité forestière qui, elle, a besoin notamment de vieux et gros arbres avec des trous, avec des creux dans lesquels il y a un certain nombre d'espèces qui vont se nourrir notamment du bois mort. Donc du coup, on est toujours dans la recherche de compromis entre ces différentes fonctions pour essayer d'aller vers un équilibre dans chaque forêt. Et cet équilibre, on est guidé sur le long terme par ce qu'on appelle l'aménagement forestier, qui est un document de planification à 20 ans de ce qui se passe dans une forêt, qui s'appuie sur un diagnostic à la fois des différentes fonctions locales de cette forêt, avec une cotation des enjeux. Donc ici, on va avoir des cotations assez fortes sur la protection contre les risques, par exemple. Des cotations plus faibles sur la production de bois par rapport à d'autres régions françaises. Et en fonction de ces cotations d'enjeux et de ce qu'est la forêt aujourd'hui, de son état, donc d'un inventaire de la forêt telle qu'elle est aujourd'hui, sur 20 ans, on essaie de donner une direction et de planifier les actions qui vont nous permettre d'aller dans cette direction. Donc nous, notre travail, c'est de prendre ce document d'aménagement au quotidien et de le faire vivre en mettant en œuvre les actions qui y sont inscrites. Alors du coup, ce qui fait un peu la particularité du département, ça va être la forte multifonctionnalité, justement. C'est que, alors on a des cotations d'enjeux sur la production de bois qui sont un peu moindres que dans d'autres régions, mais on a quand même un rôle de production de bois dans nos forêts. En revanche, on a de très fortes cotations d'enjeux sur les autres fonctions. Autour de Digne, on a beaucoup de monde qui aime à se promener, à faire du vélo. Il y a un développement touristique autour de ces activités-là, donc il y a un fort rôle d'accueil du public de nos forêts. Il y a aussi, on en a déjà parlé, un fort rôle de protection contre les risques naturels. notamment en matière d'érosion des sols. Et puis sur la fonction biodiversité, on est en pourtour là, du bassin méditerranéen, à la limite entre Méditerranée et Alpes, sur des milieux particulièrement diversifiés et riches, qui accueillent une biodiversité souvent rare, parfois menacée, donc qu'on essaie de prendre en compte aussi dans cette gestion.
Et en termes d'effectifs, ça représente à peu près combien de personnes pour gérer
Alors là, dans la vallée, du coup, on est 8. Et sur le département, avec l'ensemble des services, on est une petite centaine.
Est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez régulièrement, ou est-ce que c'est plutôt centralisé sur l'ENF ?
Alors du coup, oui, on a beaucoup de partenaires sur le territoire, puisqu'on a vraiment une gestion qui impacte le territoire. Tous les gens qui s'intéressent au territoire, du coup, travaillent avec nous. Alors bon, on a les partenaires un peu dédiés au monde forestier, on va dire, qui sont les entreprises de travaux forestiers, les acheteurs de bois, les scieurs, donc la filière bois d'une manière générale. Mais on a aussi des partenariats proches, assez étroits, avec les chasseurs, par exemple. On a besoin, nous, de la chasse pour réguler les populations d'angulés qui viennent manger les jeunes plants. Et donc voilà, on a des relations avec les chasseurs, on a des relations aussi avec les gens qui organisent l'accueil du public en forêt, et notamment par exemple avec l'agglomération et le département qui s'occupent du plan départemental des itinéraires de randonnée et de sites d'activité en plein air. Donc on a des échanges très réguliers avec eux. Voilà, donc on a un grand nombre de partenaires en fait sur le territoire. Je ne peux pas les citer tous ici, mais voilà, les associations naturalistes aussi qui nous donnent des informations sur la biodiversité. Bon, voilà. Donc on est vraiment ancré dans le territoire avec partenariat avec tous les gens qui s'intéressent en fait au milieu naturel.
Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous informer sur une visite terrain qui est organisée mercredi 25 juin au lieu dit Le Saumon. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette forêt domaniale du Besse et sur les travaux forestiers en cours ?
Oui, bien sûr. La forêt domaniale du Besse, c'est une grande forêt qui fait quelques milliers d'hectares et qui va de Digne jusqu'au Blayeul, pour ceux qui connaissent le secteur, essentiellement le long de la vallée du Besse, justement, dans des coins assez inaccessibles, très pendus. Et donc, on a quelques actions de coupe de bois dans cette forêt, dont une dans un lieu que connaissent bien les Dignois, qui est le Saumon. Donc, c'est sur la route qui monte à Courbon, et puis on s'échappe à droite vers le rocher d'escalade de Courbon, et vers l'antenne de Landran. Et donc on passe là dans une forêt de cèdres et de pins noirs, donc c'est cette forêt du saumon, enfin lieu dit du saumon, où nous avons une coupe en cours actuellement. Et donc comme c'est un lieu très fréquenté, ça a généré un certain nombre de questionnements, d'où le fait qu'on a souhaité proposer une rencontre sur site, donc ce mercredi, hein, 25 juin à 10h là-haut. Et c'est dans ce cadre aussi que vous nous avez proposé d'intervenir. On vous en remercie à nouveau.
Ces peuplements de pins noirs et de cèdres ont été plantés il y a près de 70 ans, c'est ça ? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots aussi ?
Bien sûr. C'est effectivement une zone où il y a deux faciès très différents de la forêt. Une zone, celle par laquelle on arrive, où il y a un petit parking et donc que tout le monde voit, où il y a une cédrée avec de très gros cèdres. Donc cette cédrée, c'est vraiment elle qui a motivé le fait d'aller intervenir là-haut, parce qu'il y a un enjeu très particulier qui est qu'on récolte là-haut des graines de cèdre. C'est un des trois peuplements testés pour la récolte de graines de cèdre en France. Donc c'est vraiment un enjeu de niveau national. Et il se trouve que dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, le cèdre est une espèce qui résiste bien à la sécheresse tout en faisant un bois de qualité. Et donc il y a beaucoup de demandes autour de la plantation du cèdre. Et pour planter du cèdre, il faut faire des plants. Pour faire des plants, il faut des graines. Donc du coup, tous les ans, on a des gens qui viennent, des entreprises qui viennent récolter les graines de cèdre là-haut. Et donc, dans l'aménagement forestier, on nous demande de pérenniser ce peuplement et la présence du cèdre par des coupes de bois qui visent à donner de la lumière aux plus gros cèdres, ceux sur lesquels on récolte des graines, parce que des arbres qui ont des gros pieds, c'est-à-dire des zones avec le feuillage bien développé, ils vont être en pleine énergie pour pouvoir produire des cônes. Donc ça, c'est un des objectifs de l'opération. Et le deuxième, c'est que ben, ce peuplement, vous le disiez, il a 70 ans. Il y a certains arbres qui commencent à montrer des signes de souffrance par rapport à la sécheresse. Et donc l'idée, c'est aussi de renouveler ce peuplement, de commencer à acquérir de jeunes plants de cèdre qui viennent naturellement, pour que dans 30 ans, 50 ans, bah, ces arbres-là puissent prendre le relais sur la production de graines par rapport aux arbres qui aujourd'hui ont 70 ans et donc dans une cinquantaine d'années auront 120, 130 ans et seront peut-être en difficulté. Et ensuite, on a la deuxième partie, qui est une partie au-dessus de pin noir, où là, donc, il n'y a pas cet enjeu de récolte de graines. Par contre, il y a un enjeu de récolte de bois, avec des bois qui n'avaient jamais été éclaircis, donc qui sont très serrés les uns contre les autres. Et ça, si on attend trop pour les éclaircir, c'est-à-dire pour leur enlever une partie des arbres et donner de l'espace à ceux qui restent, on se retrouve avec des arbres très longs, mais très étroits en termes de diamètre à la base. Et ça fait des arbres fragiles qui risquent de casser si on a une neige lourde, une tempête ou autre. Donc là, le but du jeu, c'est à la fois de récolter des bois, mais aussi de donner plus d'espace aux arbres qui sont les mieux conformés, qui sont le plus en forme, pour qu'ils puissent prendre du diamètre et devenir plus costauds pour la suite.
Donc, toutes ces interventions, c'est dans le cadre de l'aménagement de la forêt domaniale. Comment ça se passe, cet aménagement, puisqu'on voit bien qu'il s'agit de se projeter à long terme? À quel moment ça commence? Comment vous gérez tout ça dans le temps? Parce que bon, voilà, si on se projette sur 20 ans, j'imagine qu'il faut passer le relais aussi à d'autres personnes derrière. Voilà, comment ça fonctionne?
Donc, c'est vraiment l'objet, effectivement, de l'aménagement forestier, de faire cette continuité dans le temps de l'action, pour que ben, moi, je suis ici aujourd'hui, je ne décide pas d'aller dans un sens, et puis quelqu'un, 5 ans après, décide d'aller dans un autre. Et donc là, c'est assez rigolo, parce qu'on vient justement de finir le nouvel aménagement de la forêt. Donc, cette opération au saumon, elle était planifiée dans l'aménagement précédent, donc, qui a duré pendant 20 ans. Elle devait arriver, en théorie, il y a presque une dizaine d'années, et puis ça n'avait pas pu se faire parce que ben, le site est quand même compliqué d'accès, on en parlera après, mais il y a une petite route pour y accéder. Et donc il fallait se mettre d'accord avec la mairie qui est propriétaire de cette route. On savait qu'il y aurait des dégâts du fait de sortir les bois, donc il fallait se mettre d'accord sur comment on remettait en état, etc. Donc on a pris du retard dans l'exécution de cette coupe. Donc du coup, on est arrivé à la fin de l'aménagement forestier, et en même temps qu'on exploitait la coupe, on réfléchissait précisément à qu'est-ce qu'on va écrire pour les 20 prochaines années. Et donc du coup, là, on a un nouvel aménagement qui a été validé là par le ministère et qui va nous permettre de continuer les actions qu'on a commencées aujourd'hui par une nouvelle coupe dans une quinzaine d'années à peu près. Voilà. En gros, pour revenir à des routes qui sont solides et qui ne sont pas limitées en tonnage, il faut revenir à la gare de Digne, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, ça veut dire que de la gare de Digne jusqu'au peuplement, on est sur des routes qui sont trop légères, trop fragiles pour supporter des passages de gros camions. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a discuté avec la mairie, qui est propriétaire de ces routes, pour qu'elle nous donne l'autorisation de faire la coupe et de descendre les bois. Donc, on a proposé à la mairie de descendre à mi-charge, c'est-à-dire que par rapport à la capacité réelle d'un camion, la capacité maximale, on a divisé le poids par deux. On prend des plus petits camions qui du coup passent mieux dans les petits virages et qui sont moins lourds pour moins dégrader la route. Et ensuite, comme on savait que même avec ça, il y aurait très probablement des dégâts, on s'est mis d'accord avec la mairie pour dire que l'entreprise qui achète la coupe auprès de l'ONF s'engager à faire un état des lieux avec constat d'huissier avant de commencer la coupe, et elle remettra la route en état à la fin de la coupe. Aujourd'hui, on est à quelques semaines, peut-être mois, de la fin de la coupe, et donc l'entreprise est déjà en train de se questionner sur comment elle va faire pour faire cette remise en état avec un prestataire pour refaire une partie de la route.
Vous devez avoir des questionnements qui se soulèvent, hein, puisque bon, on pense ONF, on pense protection de l'environnement, puis quand on voit tous les arbres coupés, ça fait un peu mal au cœur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'explication que vous souhaitez apporter pour encadrer ces travaux forestiers?
Du coup, là, je vous explique un petit peu ce qui se passe autour de la route et pourquoi on fait cette opération. Après, du coup, il y a aussi le comment on fait. Ce qui s'est passé là-haut, c'est que de manière assez classique pour la région, est intervenue donc une entreprise, ici la société forestière de Lubaye, qui a acheté des bois sur pied et qui les exploite pour son propre compte, mais encadrée par l'ONF. Donc elle a utilisé des grosses machines qu'on appelle des abatteuses et des porteurs, qui sont l'équivalent d'une pelle mécanique adaptée au travail en forêt, pour couper les arbres et pour les sortir de la forêt. Du coup, ça, c'est du matériel très lourd qui a des impacts parce qu'il faut leur donner un cheminement dans la forêt, et aussi parce que comme ils sont très lourds, ils peuvent écraser le sol et faire perdre de la porosité au sol, qui est un élément pour que le sol reste vivant. Du coup, le compromis qu'on a trouvé avec l'apparition de ces engins il y a une vingtaine d'années maintenant en France, c'est de leur demander de rester sur ce qu'on appelle les cloisonnements d'exploitation. Donc en gros, tous les 18 à 20 mètres, on leur ouvre un couloir de 4 mètres sur lequel ils circulent, et ils doivent tout le temps rester sur ce couloir et ne jamais en changer, ne jamais en sortir. Et ça permet de concentrer en fait les impacts des engins sur ces endroits-là et donc de ne pas dégrader le reste de la forêt. Ensuite, il y a dans les choses qui souvent questionnent les gens, il y a pourquoi on laisse les branches dans la forêt. Les gens me disent mais c'est sale, pourquoi est-ce que vous laissez les branches que vous avez coupées au milieu de la forêt ? C'est indispensable en fait pour limiter l'impact du fait qu'on enlève une partie de la matière qui a été créée par la forêt. Donc, en fait, on enlève le tronc dans lequel il y a du carbone qui a été capté dans l'atmosphère, mais aussi des éléments minéraux qui ont été captés dans le sol. Le sol, il est producteur d'éléments minéraux par la dégradation de la roche-mère, mais il fait ça à un rythme très lent. Et les éléments minéraux, ils sont concentrés essentiellement dans l'écorce et dans les aiguilles. Donc du coup, nous on dit aux exploitants, vous avez le droit de couper, mais jusqu'à 7 cm de diamètre. Donc en gros, toutes les petites parties qui sont en haut de l'arbre, il faut qu'elles restent dans la forêt, parce que c'est là qu'il y a un maximum des éléments minéraux, et donc ces éléments minéraux, ils vont revenir dans le sol, et ça permet de ne pas dégrader le sol à long terme. Et ça permettra de continuer à faire de la production de bois là-haut.
D'autres questions qui vous sont soulevées, sur lesquelles vous souhaiteriez revenir, ou est-ce qu'on...
On en a déjà abordé beaucoup. Par contre, il y a un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est les obligations légales de débroussaillement. C'est quelque chose qu'on a proposé à la mairie de mettre en place dans le cadre de cette coupe. Alors, les obligations légales de débroussaillement, comme leur nom l'indique, ça vient de la loi. Tous les propriétaires qui ont une infrastructure, un bâtiment, une route, etc., en forêt tout court, doivent gérer ces obligations légales de débroussaillement, dont l'objectif, c'est de séparer l'infrastructure de la forêt. Donc ça veut dire que si on a une maison qui est au bord de la forêt, l'arrêté il dit 50 mètres, sur 50 mètres, on doit débroussailler de manière à ce que s'il y a un feu qui arrive de la forêt, il y ait ces 50 mètres de tampons qui permettent aux pompiers de venir protéger la maison. Et à contrario, si quand on est à la maison, on fait une étincelle en passant la disqueuse ou quelque chose comme ça, et qu'on met le feu à la pelouse, ça laisse 50 mètres pour réagir avant que le feu parte dans la forêt et que ça prenne des proportions catastrophiques. Donc là, dans le cadre de la coupe du saumon, c'est la route qui est concernée, donc route qui est communale, propriété de la commune de Digne, qui mène à des antennes qui, elles, sont propriété d'opérateurs. Et donc, comme elle traverse la forêt domaniale, ce qu'on a proposé à la commune, c'est de dire, voilà, nous, on va voir les engins qui vont être là-haut, on va faire couper du bois, on vous propose de vous arranger avec l'entreprise qui est là, nous, on vous donne l'autorisation de couper les arbres qu'il faut et de faire ce qu'il faut sur 5 mètres de part et d'autre de la route. Et du coup, quand l'entreprise repart, vous êtes aux normes de vos obligations légales de débroussaillement et vous protégez la forêt d'une éventuelle étincelle qui pourrait avoir lieu sur la route. Ça permettra aux pompiers d'utiliser la route en cas d'incendie.
Oui, c'est particulièrement important de le rappeler en période estivale, j'imagine, puisqu'il y a tous ces risques et on n'est pas forcément conscient qu'on est tenu à ces obligations. Donc c'est bien, c'est l'occasion de le rappeler.
Et si je puis me permettre, j'en profite pour faire un appel à la responsabilité en ce début d'été. Puisque les obligations légales de débroussaillement, ça permet de protéger la forêt et les infrastructures en cas de départ d'incendie, mais le meilleur incendie, c'est celui qui ne démarre pas. Et donc, du coup, là-dessus, on est tous responsables de nos comportements en forêt ou autour de la forêt. Et donc, je vous invite à être particulièrement attentif en été à tout ce qui peut être source de feu. Bien sûr, pas de feu de camp, bien sûr, pas de barbecue en forêt ou à proximité de la forêt, pas de cigarettes non plus. Voilà, vraiment être attentif dans cette période où la végétation est sèche et très inflammable, à ne pas apporter le feu en forêt.
Et alors je me mets peut-être à la place de, je sais pas, des personnes âgées qui seraient propriétaires d'un terrain et qui auraient du mal à gérer ce débroussaillement. Est-ce qu'il y a des solutions que vous pouvez proposer ou des options auxquelles on ne pense pas forcément ?
Alors du coup, il y a des entreprises prestataires qui peuvent intervenir chez les propriétaires, chez les particuliers pour faire les obligations légales de débroussaillement. L'agence travaux de l'ONF en fait une partie, et notamment là sur ce site-là, l'opérateur qui a l'antenne qui est en haut de la route nous a demandé d'intervenir sur les 50 mètres autour de l'antenne, donc ça sera fait dans l'année qui vient. Mais il y a plein d'autres prestataires qui peuvent intervenir et aider les particuliers à se mettre aux normes.
Et comment ça se passe ? Est-ce que c'est contrôlé régulièrement pour vérifier que l'accès peut se faire ou...
Alors du coup, la responsabilité de la réalisation des obligations légales de débroussaillement, elle revient au propriétaire, mais l'instance qui est censée animer le fait que ça se passe, c'est la commune. Donc là, on est sur la commune de Digne, on a une commune qui a été volontaire pour avancer sur ce sujet-là et qui a commandé une étude à notre service spécialisé en matière de défense contre les incendies pour déterminer pour chaque habitant quelle est exactement la portion de forêt qu'il doit débroussailler. Donc il y a, je pense, un an et demi, peut-être même deux ans, tous les propriétaires dignois qui sont concernés par une obligation légale de débroussaillement ont reçu un courrier leur indiquant ce qu'il fallait faire chez eux. Derrière, le financeur de ces actions d'études, c'est la région. Et la région, quand elle finance ses études, elle oblige la personne, donc là en l'occurrence la commune, à vérifier que ça a été bien fait. Et donc du coup, nous, ONF, on est en train de former les services de la police municipale de Digne, les services techniques de Digne, pour qu'ils puissent aller faire ces contrôles auprès des propriétaires. Donc en général, il y a d'abord une phase de contrôle qu'on dit pédagogique, donc où les services vont, constatent qu'il y a éventuellement un écart et rencontrent le propriétaire pour lui expliquer qu'il y a un écart ou lui font un courrier. Et ensuite, il peut y avoir des contrôles avec verbalisation si l'écart est répété.
Et pour en revenir donc sur le lieu-dit Le Saumon et la visite de la forêt domaniale, c'est donc mercredi 25 juin à 10h. Comment ça se déroule ? Est-ce qu'on va sur place et puis hop, on visite ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes pour accompagner ? Qu'est-ce qui est prévu ?
Alors effectivement, on va sur place. Donc nous, on sera deux pour accompagner les gens qui seront là et leur donner toutes les explications qu'on peut et répondre à leurs questions. Le rendez-vous, il est sur le parking qui est à l'entrée de la forêt du Bèze. Donc il faut dépasser le site d'escalade et continuer un petit peu. Et quand on rentre en forêt, un tout petit peu après l'entrée dans la forêt, il y a un petit parking, on sera là. Un petit peu avant pour ceux qui arriveront éventuellement en avance. Ne vous inquiétez pas de l'état de la route, elle a été remise en état par l'entreprise justement en vue de cette sortie pour qu'on puisse passer jusqu'au parking en véhicule léger. Donc n'ayez pas de crainte de ce point de vue-là. Et ben voilà, on vous espère nombreux pour expliquer ce qui se passe là-haut et répondre à vos questions.
Alors ça commence vraiment à 10h, combien de temps ça dure ? Est-ce qu'on peut venir à d'autres moments dans la journée ou est-ce que voilà, il y a vraiment un rendez-vous ?
Alors nous on attend vraiment les gens à 10h parce qu'après on se déplacera depuis le parking pour aller voir un certain nombre de choses. On sera pas loin du parking, si les gens arrivent un peu en retard je pense qu'ils devraient nous entendre et nous retrouver. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de rassembler les gens qui le souhaitent à 10h et puis de faire un petit tour dans la forêt autour et d'illustrer tout ce dont on vient de parler sur place.
Est-ce qu'il faut réserver ? Est-ce qu'il y a besoin de contacter l'ONF pour pouvoir participer à cette visite ?
Non, pas besoin de réservation. Il suffit de venir le jour J à l'heure dite. Donc mercredi à 10h.
Et oui, venez nombreux. Donc mercredi 25 juin à 10h, rendez-vous au parking du Saumon pour, si vous voulez approfondir un petit peu toutes ces questions. Merci beaucoup, Géraud Lavandier. Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour cette intervention ?
Non, juste un dernier mot pour souhaiter à tout le monde de passer un bel été et de profiter de la forêt pour aller se balader au frais.
Merci.